inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
Ce magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
That boy you call is a diamond fella. All you little boys ever come in your parents. You better let your fellows get tamed like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capular, you're monarchy, I ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, getting to your CV. As for me, all's well, the end's well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your...
Bonsoir.
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 Nous sommes le mercredi 28 septembre 2016. Il est 19h passé de 4 minutes. C'est l'heure du Canu Info. Alors, de quoi va-t-on parler ce soir?
On va commencer par une rubrique nécrologique.
Puis les Antilles, une terre d'exception.
Le chiffre du jour, 32 000.
Loi anti-avortement en Pologne.
Du ferme pour les émeutiers de Moiran.
Le mouvement de Macron change de nom.
Ça, c'est un scoop. Précise, attention.
Exclusivité Radio Canu.
Voilà, après on va parler de Calais.
Un témoignage sur l'islamophobie.
On fera un retour sur les ZAD.
Et si on a le temps, on parlera contre l'extension du permis d'exploitation de la carrière de Saint-Julien-Molin-Molette.
On ira peut-être explorer un petit conseil de lecture et...
On finira par un agenda.
Absolument.
Eh bien, quoi dire dans cette rubrique nécrologique? Vous le savez si vous avez écouté les médias aujourd'hui, Shimon Peres est mort ce mercredi 28 septembre 2016. Il fut l'artisan de l'ambiguïté délibérée du nucléaire israélien, l'un des acteurs de la politique de colonisation en Israël, des accords d'Oslo comme de leur échec, et le lauréat du prix Nobel de la paix. Et les médias qui l'encensent aujourd'hui oublient que même s'il a participé à l'élaboration de la première paix israélo-palestinienne, entre guillemets, Shimon Peres a joué un rôle non moins certain dans son avortement, notamment en poursuivant la politique de colonisation. Alors non, le voir comme un grand défenseur de la paix est une erreur, mais oui, comme un politique stratège pour continuer une colonisation à coup de fausses mains tendues.
Voilà, pendant que les éternuements sont légion sur Radio Canu, on va aller du côté des Antilles, une terre d'exception avec un S. On dirait une pub, mais en fait, c'est pas exactement ça. Les exceptions, c'est des exceptions à des principes du bon sens que je vais vous énumérer. Alors, est-ce que je vais vous parler du produit qui était balancé pour protéger les bananes du Charançon jusqu'en 1993, à savoir le chlordécone, alors qu'il était interdit un peu partout dans le monde depuis 1979. Alors non, je ne veux pas vous en parler, parce que ça date d'il y a quelques années, mais voilà un petit exemple de comment ont été traitées la Martinique et la Guadeloupe jusqu'en 93, donc pendant 13 ans, et heureusement ça a fait un scandale, hein. Eh bien c'est des intérêts économiques qui ont drivé un petit peu cette utilisation illicite complet, pas du tout dans le sens des populations évidemment, de ce pesticide. Voilà un exemple dont on aurait pu parler. Est-ce que je vais vous parler de l'épandage aérien? Ben non, de nouveau, hein, c'était une exception, mais heureusement elle est plus actuelle. Voilà, l'épandage aérien de pesticides, c'était interdit en France depuis 2009, mais il y avait des exceptions, des dérogations préfectorales, en particulier dans les fameuses Antilles, qui donc se ramassaient des avions qui arrivaient vrombissants à très basse altitude et qui lâchaient des nuages empoisonnés sur, évidemment, les bananeraies, mais on se doute bien que ça vole un petit peu, tu vois, donc ça peut atterrir dans ton nez. Donc voilà, entre 2009 et 2014, jusqu'au 6 mai 2014, il y a eu des épandages aériens du côté des Antilles. Voilà encore des exceptions qui fait qu'on se demande un petit peu si c'est quelle est cette considération qu'on a pour ces départements d'outre-mer. Alors, cette fois-ci, je vais vous parler de l'énergie. Et on découvre quand même que les territoires d'outre-mer français sont au rang des plus mauvais élèves mondiaux au niveau de la production d'électricité. Donc il n'y a pas plus polluant que ce qui se fait du côté des Antilles. Alors bien sûr, c'est que EDF est présent et eux, ils ont misé à gogo sur le charbon et le fioul. Donc voilà, c'est encore une exception. Et tout ce qui pourrait évoquer des pistes d'utilisation du milieu pour essayer de trouver des idées un petit peu innovantes pour produire de l'électricité, c'est un petit peu, si vous voulez, EDF ne peut pas non plus prendre des risques quand même. Alors on peut rappeler que EDF préfère prendre d'énormes risques financiers et puis de santé publique en continuant d'investir dans cette putain de filière nucléaire. Toujours est-il que des idées à base d'utilisation de la houle, d'énergie thermique, d'osmose, tout ça, c'est un petit peu pas à l'ordre du jour du côté des Antilles, et c'est vraiment très actuel puisque en Guadeloupe, une centrale géothermique qui produit de l'électricité renouvelable depuis 30 ans grâce à des réservoirs d'eau chaude des sous-sols qui sont à proximité du volcan qui est donc du côté de la Guadeloupe. Eh bien, en fait, cette centrale géothermique, elle est plus ou moins, elle est en passe d'être complètement délaissée par l'État. C'était quand même une énergie très peu polluante, et c'est donc EDF et l'État qui pensent qu'ils vont se désengager de cette centrale malgré des promesses de Ségolène Royal, bien sûr. Donc la géothermie, on abandonne, et a priori la centrale est sur le point d'être vendue au privé. Donc voilà des exceptions qui sont du côté des Antilles. Et je terminerai par des choses assez sympathiques, vous saisirez mon ironie. J'ouvre les guillemets. Propriétaire d'esclaves la veille, chef d'entreprise le lendemain, esclave l'abeille. La veille, employé précaire le lendemain. C'est un peu ce qui pourrait caractériser le combat de 20 agriculteurs qui sont donc assignés devant un tribunal le 12 septembre. Voilà, qu'est-ce qu'ils veulent? Eux, ils refusent de payer un loyer à un propriétaire de terre. En fait, ils cultivent la canne à sucre, et en fait, leur propriétaire est un descendant d'esclaves, ce qu'on appelle un béqué. Et ils se sont dit, d'accord, mais si on regarde bien un petit peu cette histoire, ce propriétaire terrien, il a autoritairement, dans les années 30, et c'est peut-être le cas d'autres propriétaires, autoritairement dit que voilà, ça c'était ses terres, et que donc, quiconque les utiliser, pourrait récupérer une quinzaine de pourcents de la récolte, et le reste serait récupéré par ce propriétaire. Donc les agriculteurs sont en révolte contre ce système-là, et donc il y a un procès en cours. Voilà des nouvelles du côté des Antilles.
Alors, 32 000, c'est le nombre d'arrestations qui ont eu lieu en Turquie depuis cette fameuse tentative de putsch. On s'en souvient, au total, 70 1000 personnes sont visées par une enquête. Tous sont accusés d'avoir un lien avec Fethullah Gülen, qui est soupçonné par Erdogan d'être à l'origine du putsch. Bien sûr, on rappelle quand même que le pouvoir en Turquie se sert de cette tentative de putsch pour mettre en prison tout opposant politique ou personne appartenant à la minorité kurde ou autre minorité. Cette purge permet au pouvoir de placer à tous les niveaux de la société, dans les administrations et tout, des fidèles de l'AKP. L'AKP, c'est le parti au pouvoir. Et bien, face à cet afflux massif de prisonniers, Erdogan a donc décidé de libérer 35 000 détenus pour faire de la place aux prétendus putschistes. Et oui, parce que des prisons, ça se construit pas en deux jours. Donc pour Erdogan, ce coup d'État est donc une aubaine. Suite à ça, il a considérablement renforcé son pouvoir. Il a une répression un peu sans précédent dans le pays et peut sans honte faire de la propagande digne des pires régimes autoritaires. Par exemple, de nouvelles consignes ont été données pour la rentrée scolaire aux directeurs d'établissement. Le ministère de l'Éducation impose aux écoles d'afficher drapeaux, images et documents expliquant le coup d'État du 15 juillet dernier, ainsi que de réciter des prières pour les martyrs. Des brochures titrées, je cite, « À la mémoire de la victoire de la démocratie du 15 juillet et de nos martyrs pour l'une et, je cite encore, 15 juillet 2016, la tentative d'occupation de la Turquie par le coup d'État pour l'autre » ont été distribuées à tous les élèves du pays. Alors, les brochures, c'est des belles brochures en papier glacé, ça a dû leur coûter un sacré paquet de pognon. Les élèves ont tous dû visionner une vidéo montrant des images du coup d'État où on voyait des militaires putschistes se faire lyncher et tout. Gare aux instituts, ils disaient, bon, on a quand même, c'est quand même un peu des enfants qu'il y a là, peut-être ça risque d'être des images un peu traumatisantes. S'il y en a un qui levait le petit doigt pour mettre ça, chuit, hop, c'était la porte ou la prison. Bref, un pack fourni par l'éducation nationale vantant les mérites d'Erdogan, de son gouvernement et tout ça, glorifiant les martyrs et prouvant que grâce à lui, la démocratie a été sauvée. Alors bon, certains disent qu'Erdogan a fomenté lui-même ce coup d'État. Pour l'instant, on n'en sait trop rien, mais ce qui est sûr, c'est que ça lui a rendu un immense service. Erdogan lui-même parle d'un, je cite, « cadeau de Dieu ».
Mais on peut peut-être juste une petite anecdote pour rappeler que Erdogan, il n'a pas attendu cette année pour mettre du monde au Newf. Voilà. Moi, je voulais expliquer l'existence d'une maison des mathématiques en plein milieu de la Turquie, dans la Pampa, qui a été construite il y a quelques années par trois copains qui sont donc un kurde, un arménien et un turc. Et il se trouve que, donc j'ai un collègue qui est là-bas, dans cette maison des mathématiques, il y a un des trois personnes qui a critiqué ouvertement une des lois, cette loi qui interdit de critiquer la religion. Et donc ce gars-là, il a été mis en prison, justement, sur quelque chose de complètement fallacieux par rapport à cette maison du mathématique, qui aurait été construite sans avoir les papiers qu'il faut pour faire les bonnes démarches. Et du coup, il est en tôle. Et c'est vraiment ce qu'on appelle emprisonner quelqu'un de façon politique.
Et en Pologne, il y a le mouvement de Manif Noir. Alors, les Manifs Noirs, c'est sur plusieurs places publiques de villes du pays, des manifestations sur l'internet polonais, puisque le Parlement a voté la poursuite de la procédure d'adoption de la loi qui veut interdire les avortements en quasi toutes circonstances et instaurer des peines de prison tant pour les femmes avortant que pour les médecins le pratiquant. Donc ça en a parlé la semaine dernière pas mal dans les médias. Et ben ce vendredi, les députés se sont prononcés pour la mise en œuvre du projet et en votant sa transmission à une commission parlementaire pour examen et amendement. Donc c'est bien parti pour que ça se fasse. Et ils ont aussi voté le rejet d'un autre texte qui aurait entraîné les droits reproductifs polonais dans la direction opposée, avec une libéralisation des lois existantes. Donc voilà. Et pour rappel, ce Parlement polonais, il est actuellement dominé par le Parti conservateur Droit et Justice, qui bénéficie du soutien de l'Église catholique romaine.
Les conservateurs plus quand même. Hein.
Oui, c'est ça. Et donc, depuis jeudi, le mouvement Manif Noir continue à fond. et paraît même prendre de l'ampleur, et tant mieux, avec une participation notamment sur le net qui ne cesse d'accroître. Nous avons pu lire « Je dis non à la prison pour avortement, je dis non à une Pologne où une fausse couche est un crime ». Les opposantes à une restriction encore plus poussée du droit à l'avortement parlent d'un enfer pour les femmes, à cause de l'absence de choix, bien évidemment, et du coup décrivent plein de situations différentes, comme la situation d'avorter, comme des situations plus trash, et dire que ça sera plus possible.
Parce que déjà, pour l'instant, en Pologne, pour avorter, il y a quand même les cas de figure où c'est possible légalement, oui, sont extrêmement restreints, hein, c'est viol, inceste. Et risque pour la vie de la mère. Je crois que c'est
même les handicaps profonds. Je crois qu'il n'y a pas de.
Ah ouais, non, déjà non.
Et en fait, ce qui reste donc justement, c'est l'unique et étroite exception, c'est le cas où la vie de la mère est mise en danger. Donc, ce qui veut dire que quand une personne a été violée, elle doit garder l'enfant. Voilà. Super. Bref. Et donc, sauf que cette chose, comme la loi se restreint de plus en plus, placera les médecins dans une position aussi embarrassante d'avoir à décider quand la menace représentée par une grossesse pour la vie de la mère est suffisamment directe. Parce que pour eux, prendre la mauvaise décision pourrait vraisemblablement envoyer un praticien en prison lui aussi. Donc c'est complètement taré, cette loi. Et donc, bien sûr, plein de gens de toute l'Europe et des États-Unis ont rejoint le mouvement, notamment sur le net, en mettant en ligne des photos et des messages de solidarité avec les manifestations des pro-choix de Pologne. Et donc, après le vote au Parlement de ce week-end, le parti de gauche Razem avait annoncé une série de manifestations Manif Noir contre le projet de loi dans les 9 principales villes de Pologne ce dimanche 25 septembre. Et notamment un mot d'ordre, c'était « Demain, nous ne resterons pas à la maison ». Et pendant ce temps, il y avait des rassemblements spontanés à Londres, à New York, à Vienne, à Berlin, pour solidarité avec l'avortement et pour les personnes qui sont pour le choix d'avorter.
Alors, l'adresse du consulat de Pologne à Lyon, c'est le 79 rue Crillon. C'est dans le 6e.
79 rue Crillon, dans le 6e.
Voilà.
Alors, les émeutiers de Moiran ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 2 ans de prison ferme. Alors, petit rappel, le 20 octobre 2015, une dizaine de personnes incendient voitures, pneus, palettes sur une route départementale de Moiran, ça se situe vers Grenoble, ainsi que sur la ligne de train Lyon-Grenoble. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la décision d'un juge de refuser la permission de sortie de prison à Mike Winterstein, je ne sais pas si je prononce bien, pour pouvoir aller à l'enterrement de son frère de 17 ans. 12 personnes sont donc passées devant le juge pour cette émeute. L'émeute a été énormément médiatisée à l'époque, ainsi que le procès, forcément. Et qui dit médiatisation dit grande déclaration. Et c'est là que le vice-procureur, qui dans un grand moment de modération, déclare, je cite, « Cette ville de Moiran a vécu un état de siège. Le visage de Marianne, ce jour-là, a été bafoué, a été sali. »
Waouh !
Pas mal, hein, rien que ça quand même. Donc on parle de 35 voitures qui ont cramé ce jour-là et d'une sacrée pagaille du côté...
Toujours beaucoup moins qu'à n'importe quel Saint-Sylvestre à Strasbourg.
Par exemple. Et une sacrée pagaille du côté de la SNCF, avec quelques 400 trains qui sont arrivés en retard, parce que forcément, du coup, j'imagine qu'il y avait une ligne de bouchée, du coup ça a foutu le bordel de partout. Bref, mais au-delà des dégâts matériels, ce qui a sacrément foutu mal à l'époque, c'est que les flics se sont fait complètement foutre la misère. Ils ont réussi à l'époque à arrêter personne sur le moment et ont mis un sacré moment, alors je me souviens plus du temps qu'ils ont mis, mais c'était vraiment très long, à pouvoir reprendre le contrôle de la situation, hein, c'est-à-dire que les gens étaient assez doués pour jouer au chat et à la souris et foutre le bordel un peu partout là-bas. Niveau procès, beaucoup nient avoir pris part aux faits ce jour-là, parce que beaucoup de gens étaient masqués, du coup plein de gens disent en fait juste c'était pas moi. À part quelques-uns, dont quand même une qui a plutôt la classe, c'est Thérèse Cornero, 58 ans, grand-mère de 3 petits-enfants, qui a déclaré « J'avais la rage, la haine, je vous le dis franc ». Au moins, c'est clair. Sur les 12 prévenus, un a été relaxé au bénéfice du doute. 8 ont pris du ferme allant de 6 mois à 2 ans. Et 3 autres ont été condamnés à du sursis, à savoir que le juge est allé au-delà des réquisitions du procureur, qui lui avait réclamé de 6 à 14 mois ferme pour 3 prévenus et du sursis pour les autres.
Et maintenant, une information en exclusivité sur Radio Canu. Les autres, les médias concurrents, les commentateurs politiques des médias concurrents ne sont pas encore au courant. Et donc, tu l'annonces.
Et voilà, le mouvement d'Emmanuel Macron, qui s'appelait En Marche, vient de changer de nom. Il s'appelle désormais En Voiture. Voilà, donc En Voiture, entre parenthèses, diesel. Voilà. En fait, c'est qu'il a visité une usine dans l'Aveyron et il a affirmé qu'il ne fallait pas faire la chasse au diesel, assurant qu'il reste au cœur de la politique industrielle française. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui semble ignorer que le diesel, en plus d'être un scandale sanitaire, c'est un petit peu complètement has-been. J'ai découvert ça dans cet article, donc c'est vraiment le scoop Radio Canu. Il nous fait bien rire Macron quand même. Ce que j'ai découvert, c'est que la France, qui est donc un des pays où le parc automobile est le plus dieselisé au monde, et ben c'est lié à un autre choix assez sympa. Peut-être que vous saviez ça, c'est le choix du nucléaire. C'est au moment où on a lancé les centrales nucléaires pour trouver des débouchés à ces centrales. Eh bien, je vous rappelle quand même, les centrales nucléaires, c'était aussi pour créer du combustible pour les bombes. Donc les centrales nucléaires, on a fait en sorte de trouver un débouché en équipant en chauffage électrique les logements neufs. Du coup, eh bien, le chauffage au fioul, ça a commencé à décliner, péricliter, et donc il a fallu trouver des débouchés pour nos raffineries. Et donc à l'époque, on a décidé de baisser la taxe sur le gazole. Enfin, qu'est-ce que je raconte ? On a décidé
baisser la taxe sur le gasoil pour monter celle sur l'essence.
Exactement. Et ce qui a fait que naturellement, ça a trouvé des nouveaux débouchés pour faire de la motorisation diesel à gogo. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. Emmanuel Macron en voiture.
Et Emmanuel Macron, dont on a un maire qui est fan, complètement fan absolu d'Emmanuel Macron. Je veux dire, à chaque fois qu'il fait un déplacement ou quoi, à chaque fois que l'on l'invite, lui fait de la lèche et tout, je pense qu'il espère que Macron soit président pour qu'enfin, il puisse avoir un poste de ministre, peut-être un jour.
Et puis, il ne faut pas oublier que Gégé, il voudrait que Lyon, ça soit la capitale de la France, donc peut-être il y arrivera comme ça.
Alors, les conseillers en communication de François Hollande lui avaient dit qu'il avait l'air trop mou, qu'il fallait qu'il ait l'air ferme. C'est à quoi peut tenir la destruction d'un bidonville de la taille d'une petite ville, d'une bonne petite ville, et l'éloignement forcé de ses 10 000 habitants-habitantes. C'est de Calais qu'on parle.
Tu veux dire qu'il n'en a pas profité pour s'en prendre à la finance, comme il l'avait dit.
Ah, bizarrement. Ah non. Mais peut-être qu'il a oublié ces fameuses... En même temps, je ne sais pas comment il aurait fait pour oublier, parce que tout le monde lui rappelle tout le temps, mais non, visiblement, quand même, ça ne l'inspire pas plus que ça. Alors, comme il faut le faire et que ça a déjà été fait, que ça se répète depuis la fermeture du centre de Sangatte en 2002, alors, eh ben, on refait la même chose en prétendant, encore une fois, que cette fois, ça ne sera pas pareil, que ça sera mieux. Comme après la fermeture du centre de Sangatte, les personnes raflées seront emmenées dans des centres dispersés dans toute la France, où elles auront le choix entre une demande d'asile en France, le retour volontaire dans leur pays. Alors bon, là, on est quand même en train de parler de gens qui ont traversé l'Europe et éventuellement une partie de l'Asie à pied, ou la Méditerranée sur des barques au risque de leur vie. Et donc, on imagine le retour volontaire, qu'est-ce qu'il va falloir pour que ça soit volontaire. Comme lors de la fermeture du centre de Sangatte, mais de manière beaucoup plus light, il est question qu'une partie des personnes présentes à Calais puissent accéder légalement au territoire britannique. C'est-à-dire que cette fois-ci, il n'y a vraiment rien de précis là-dessus. Alors, il s'agirait en fait essentiellement des mineurs, d'un certain nombre de mineurs qui, en réalité, devraient déjà y avoir accès. C'est juste ils avaient la possibilité matérielle d'avoir accès aux droits. Selon la législation européenne, puisque pour une bonne part d'entre eux, ils ont de la famille en Angleterre, ce qui fait que s'ils pouvaient avoir accès à vraiment accès aux trucs qui sont écrits dans la loi anglaise, eh ben ils pourraient rentrer en Angleterre. Et selon aussi l'amendement Dobbs. Alors Dobbs, qui sait, c'est un gars qui lui-même est arrivé en Angleterre en tant que migrant. Il était tout petit, mais il était juif et il fuyait le nazisme. Et là, maintenant, il est Lord et il a proposé un amendement qui pour accueillir un certain nombre de mineurs isolés. C'est-à-dire même ceux qui n'ont pas de famille en Angleterre. Il y en a, je ne me rappelle plus, il y a un chiffre comme ça de quelques milliers de mineurs isolés qui devraient pouvoir entrer en Angleterre. Mais le problème, c'est que ces mineurs isolés pourraient venir de plusieurs pays européens. Mais la France s'occupe tellement mal de ces mineurs isolés qu'elle est incapable d'en fourguer aux Anglais le nombre que les Anglais sont prêts à accepter qui pourrait venir de France. Alors, comme après la fermeture du centre de Sangatte, les personnes qui arrivent ou qui reviennent de Calais, ou qui reviennent à Calais, pardon, seront traquées. Mais cette fois, vraisemblablement, elles seront aussi traquées dans les villes et dans les gares sur le chemin de retour vers Calais. Calais, nous dit le site Passeur d'Hospitalité, c'est 90% du trafic de camions qui passe du continent en Grande-Bretagne. Et c'est pour ça que, quoi qu'on fasse, les exilés sont et restent et reviennent au fil des années, quelles que soient les violences qui leur sont faites.
Alors on va... Et peut-être on peut dire aussi que sur la dernière année, là notamment, ça a augmenté, ça a explosé le nombre de témoignages de camionneurs ou de mecs qui gèrent les entreprises sur la prétendue, du moins, et le truc de violence des personnes migrantes. C'est un peu la seule réponse un peu assez naïve là-dessus.
C'est ça, parce que on a aussi eu toute une sorte de levée de bouclier d'entrepreneurs, de citoyens, de nanana calaisiens qui disent que Calais est devenue une ville pourrie à cause des migrants. En réalité, Calais est devenue une ville pourrie à cause de la politique qui est appliquée aux migrants et qui fait effectivement qu'on a 10 000 personnes qui vivent dans un bidonville à l'écart de la ville. Ce qui fait effectivement ce qui donne pas plus que ça envie. Que par ailleurs, la moitié des Calaisiens, des Calaisiens mis dans cette situation aussi, mais en tout cas je veux dire c'est aussi des gens qui font des choix mais ils sont complètement faf et qui fait qu'effectivement on se dit qu'une ville qui oscille entre un bidonville et des fachos, c'est sûr que ça fait pas une ville d'une attractivité gigantesque.
Mais peut-être ce qu'il faut rappeler, c'est que ça concerne toute la Calaisie, ça concerne tout le Nord-Pas-de-Calais, énormément de villages autour et d'autres villes autour. C'est pas juste Calais, quoi.
Tout à fait. Alors moi je voulais revenir un peu sur très rapidement. Hein, je vais pas m'y attarder à fond, mais en fait on n'arrête pas de parler de Calais et selon l'âge qu'ont les gens qui nous écoutent et depuis combien de temps ils écoutent les infos et ce dont ils se rappellent, je vais redonner des petites bases, hein, mais cette histoire de Calais, ça, alors, on n'a qu'à remonter en 99, à l'époque c'était un gouvernement socialo, et c'était Jospin, et en accord avec les activités préfectorales, ils avaient décidé, parce qu'il y avait déjà un certain nombre de gens qui essaient de passer en Angleterre, que c'était déjà pas très facile, et qui traînaient à Calais en attendant d'arriver à passer... Ils avaient ouvert ce centre, le très fameux centre de Sangatte. Donc ça, c'était en 99. C'était un centre humanitaire qui était géré par la Croix-Rouge, un centre d'hébergement et d'accueil d'urgence, géré par la Croix-Rouge.
Qui n'est pas complètement à Calais, qui est légèrement décalé.
Oui, c'est ça. Voilà. Mais qui est dans la région, quoi. Ce centre pouvait accueillir à l'époque 200 personnes. Bon, en réalité, déjà à ce moment-là, on était arrivé à certains moments où le centre a accueilli jusqu'à 1600 personnes qui du coup étaient hébergées dedans, ce qui fait que c'était quand même pas facile, mais toujours plus que tout ce qui a suivi. Tout ce qui a suivi a été pire. Là-dessus, en 2002, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et sous la pression des Anglais, qui eux disaient oui, mais là, si vous les hébergez, que vous les nourrissez là, c'est beaucoup plus facile pour eux de tenter le passage et donc d'envahir notre pays. Donc Sarkozy a décidé en 2002 de fermer Sangatte. Alors, pour autant, les migrants ont continué à arriver à venir à Calais. Ils n'ont pas du tout, bizarrement, ils n'ont pas du tout été moins nombreux parce que ce qui est étonnant, ce qu'auraient pu réaliser les politiques, mais ils ne semblent pas l'avoir réalisé, c'est que les migrants qui venaient à Calais ne venaient pas pour profiter des bungalows du centre de Sangatte et des petits déjeuners qui leur étaient servis au lit. Et ils venaient en réalité parce que c'était sur la route de l'Angleterre. Et donc, ils ont continué à venir même si Sangatte n'existait plus. Ils ont continué à venir, mais là, ils ont commencé à s'installer plutôt, alors soit pour certains dans des squats qu'ils ont pu ouvrir, soit à Calais, soit pareil dans les bleds environnants, soit dans ce qu'on a commencé à appeler les jungles et qui étaient en réalité des sortes de cabanes de palettes qui étaient construites autour de Calais, dans la Cambrousse. Bon, à ce moment-là, ils ont été énormément traqués par les flics, bastonnés par les flics, arrêtés par les flics, envoyés éventuellement en centre de rétention, mais en réalité, moins que tout ce qui aurait été possible légalement, parce qu'ils étaient juste trop nombreux. Le but des flics à ce moment-là, c'était de leur rendre la vie impossible, de vraiment leur faire mal, quoi, de les empêcher de manger, de les empêcher de dormir, de les taper, de vraiment faire en sorte que ça soit insupportable pour eux de rester. En réalité, la vie ailleurs et autrement étant encore plus insupportable, ils ont quand même continué à être là.
Alors, juste dans les faits d'armes un peu marquants de la police, là, il y avait le coup de gazer la nourriture aux heures des distributions de repas, de gazer dans les tentes.
C'est ça, parce que face aux flics, il y a aussi eu des associations et des militants qui ont essayé de filer la main aux migrants. Et avec des associations, vraiment tout un spectre entre des gens comme le Secours catholique, dont on va voir dans une seconde, qui sont quand même assez facilement prêts à travailler avec les autorités plus directement qu'avec les migrants, à l'autre bout du spectre, ceux qu'on appelle les no-borders, qui sont des gens qui seraient plus nos amis à nous, et qui eux ont une réponse un peu plus radicale aux violences qui sont faites aux migrants, et ont aussi une conception des frontières qui serait que si les frontières n'existaient pas, ça serait mieux pour tout le monde. Bon voilà, tout ça a duré quelques années, et puis en 2014, la préfecture communique sur le fait qu'elle va laisser un terrain. C'est ce qu'on a beaucoup appelé ici dans nos infos le bidonville d'État de Calais. Et donc là, les flics se sont mis à expulser beaucoup plus rapidement les squats et les jungles, à détruire les maisons des gens, etc. En leur disant, vous pouvez aller là-bas vous serez tranquille, on vous laissera tranquille.
Sur un terrain construit sur une ancienne déchetterie.
Ah, ça je l'ignorais, mais d'accord. Et puis en fait de les laisser tranquilles, et ben ça a quand même duré plutôt moins de 2 ans, puisque au printemps dernier le gouvernement a décidé qu'il fallait cette fois-ci en finir avec ce bidonville qui, c'est vrai, prend des proportions complètement dingues, hein, mais en fait tout le problème c'est ce bouchon à la frontière, c'est le fait que les gens ils veulent aller en Angleterre, et en plus pour une bonne part ils y ont droit, juste les choses ils sont tellement dans la précarité qu'ils n'ont pas accès à ce droit-là.
Et puis aussi ce qui est vicieux, c'est que plus ils ont fermé la frontière et rendu difficile le passage des migrants, ben plus ça augmente le bouchon, et donc plus les gens restent longtemps à Calais. Que jusqu'à il y a quelques années là, ben ça faisait moins un bouchon, les gens passaient plus facilement, il y avait des gens qui arrivaient mais ils restaient pas si longtemps, et que là, et ben ouais, c'est tellement difficile que les gens restent des mois et des mois avant de pouvoir passer.
Parallèlement, l'Angleterre a filé du pognon à la France pour construire un mur gigantesque, voilà, pour protéger la rocade de la route, pour que les migrants ne puissent plus s'en approcher en aucune manière. Bon, alors là, le François Hollande et Bernard Cazeneuve ont dit qu'ils allaient dégager la jungle, ce qui fait la maire de Calais, elle a dit « Ah, mais du coup, on n'aura même plus besoin du mur ».
Oui, elle a arrêté la construction de la suite du mur.
Ouais, c'est ça.
Il y a une bonne partie qui existe.
Toujours est-il qu'au printemps dernier, donc expulsion d'une partie de ce bidonville. Là, les gens se sont retrouvés un peu partout. Alors ça a été la panique dans les villes autour. Il y a maintenant un nouvel endroit qui s'appelle Grande-Synthe, qui a eu un bled à une trentaine de bornes de Calais, qui lui a aussi son camp. Alors par contre, là, en l'occurrence, les choses se passent beaucoup mieux parce que la mairie a décidé qu'il était hors de question que les migrants vivent d'une d'une manière vraiment dégueulasse sur leur commune, et que s'il y avait des migrants, il fallait s'occuper d'eux sérieusement. Et du coup, il a fait une convention avec Médecins du Monde pour faire un camp aux normes internationales qui les accueille avec un minimum de décence. Le gouvernement a fini par se trouver un petit peu obligé à un moment de mettre la main au portefeuille, pas pour lourd, mais quand même un petit peu. Là-dessus, le gouvernement a continué à essayer de faire chier les migrants qui restaient dans le reste du bidonville. Et en particulier, on a cette histoire des commerces où il y a eu une action. Parce que sur le bidonville, il y a plein de gens qui ont ouvert des sortes de petits commerces des petits commerces de la misère, quoi. Où ils vendent des fringues de récup, des bouteilles d'eau ou des cartes de téléphone. Ou éventuellement, c'est aussi des endroits qui ont servi de bistrot, qui étaient aussi des endroits de sociabilisation, mais qui étaient en fait de ces choses qui rendent la vie vivable et qui font qu'un bidonville est un endroit où on peut faire autre chose que juste se mettre à l'abri, mais puisque les gens sont obligés d'y rester, comme nous l'a expliqué le camarade, ils peuvent y rester dans des conditions aussi qui font que la vie est possible. Bon, bah ça, du coup, il y a une action en justice contre ces commerces. Là-dessus, quand même, il faut dire que le tribunal administratif a débouté le gouvernement.
En fait, ils ont, ouais, tout ce qui pouvait être solution de fond, ou en tout cas, je sais pas, prise. Avec un petit peu de neurones du problème, c'est pas envisagé.
Ça
n'a
jamais été le cas. Les lieux de culte aussi, ils ont été détruits. C'est les premières choses qui ont été détruites. Et l'école qui avait été mise en place sur le bidonville d'État, tout ce qui fait preuve de l'existence, du moins de la vie, et pas juste de la survie, c'est balayé à chaque fois.
Alors voilà, le site Passeurs d'Hospitalité nous explique qu'avec la destruction finale du bidonville qui est annoncée maintenant par le gouvernement, on revient à une expulsion-destruction classique, c'est-à-dire pas comme cette expulsion de la partie sud qui était un démantèlement, qui était bien sûr censé être humanitaire et avec examen des dossiers des gens, on leur proposait des solutions. Le gouvernement avait dit qu'il détruirait pas des cabanes occupées, qu'ils allaient d'abord convaincre les gens de partir. Alors bon, en réalité, ils ont effectivement pas détruit des cabanes occupées. Les flics sont rentrés dans les cabanes, ils ont gazé, ils ont tapé les gens pour les convaincre de partir. Et puis une fois qu'ils ont été sortis, ils ont détruit les cabanes. Promesse tenue, promesse de socialiste. Mais là, bon, les discours sont un peu, on entend un peu des trucs, un peu des autres trucs, etc. Mais à des moments, on entend parler d'une expulsion-destruction plus classique, et les habitants devant absolument quitter le lieu pour aller juste ailleurs, loin.
Alors ça, c'est ailleurs. C'est pas la proposition de Sarkozy, ça, de tout raser.
Ouais. Mais bon, de toute façon, on rase et puis voilà quoi. Les gens, à un moment, tout le problème de ce gouvernement et des précédents et des suivants, c'est de pas se résoudre complètement à rouvrir des chambres à gaz, parce que juste en fait les gens ils peuvent pas arrêter d'exister. Et en fait le gouvernement socialiste, mais comme les gouvernements de droite, hein, font tout comme s'ils espéraient que les gens à un moment se décident à arrêter d'exister, tout bêtement. Mais ils osent pas eux-mêmes vraiment buter les gens, quoi.
Et donc, les déplacent de ville en ville.
C'est ça.
Alors, des grands cas.
En l'occurrence, quand on parle d'ailleurs ici, ça peut être bon, éventuellement la mise pure et simple à la rue, l'envoi dans des centres de rétention un peu partout en France, comme ça avait déjà été fait en 2009 au moment de la destruction de ce qui s'appelait la jungle des Afghans. L'évacuation vers des lieux d'hébergement loin de Calais. Alors là, on parle des CAO, des centres d'accueil et d'orientation, qui sont censés être un petit peu partout sur le territoire français, et qui sont mal reçus partout où ils sont. Il faut dire en plus que le gouvernement, prévoyant à l'avance que des élus locaux allaient dire « Oui, mais quoi, vous voulez m'envoyer des réfugiés, mais moi, vous vous rendez compte, ça va pas être bien », a commencé par dire « Non, mais de toute façon, il y aura aucune concertation avec les élus locaux », ce qui fait qu'en fait, ce qui rend les choses encore pires. Et ce qui fait qu'une ville de 5000 habitants à qui on dit « Oh, alors là, attention, le gouvernement a décidé d'utiliser ce bâtiment pour loger 50 personnes », eh ben, c'est la révolution dans la ville de 5000 habitants, parce que 50 réfugiés vont être là et que certainement ça va faire exploser les taux de criminalité, ça va faire qu'il va y avoir des meurtres et des vols et des cambriolages.
Mais non, les mamies, elles adorent. ça fait de la compagnie.
Oui, et ben ça aussi, sauf que bizarrement, ces mamies-là, on les entend extrêmement peu, ce qu'on entend tout le temps, et alors bon, bien sûr, si on lit le progrès, ça, on est au...
Et puis, il y a Laurent Wauquiez aussi qui prend position, aussi, parce que lui, c'est un mec bien, et eux, il n'en veut pas du tout.
Le progrès, les TF1, les Laurent Wauquiez, tous les gens qui soulignent le fait que ah, les migrants, personne n'en veut, sont là, on les entend énormément. En réalité, il y a aussi effectivement des endroits,
oui,
des villes, des maires même, qui disent que ouais, en fait, c'est bon, c'est OK.
C'était trop déçu que les personnes, elles se barrent parce que ça allait faire moins de vie au village et qu'ils s'étaient habitués, que c'était agréable, que les gens soient là, les petites mamies, elles étaient contentes, elles faisaient la conversation, les gens, ils les aidaient à apporter les courses et tout.
Alors, ce que nous souligne aussi le site Passeur d'Hospitalité, c'est que ce truc aussi d'envoyer les gens loin et de les héberger pendant un temps, parce que aussi le gouvernement a promis à toutes ces villes où il va mettre des CAO que c'est que pour une période courte. Et bien en fait, il y a des chances que ça soit vrai, que ça soit que pour une période courte. Et donc, ce que nous dit le site Passeur d'Hospitalité, c'est qu'en fait, il s'agit bien d'une mise à la rue différée. Parce que, alors bon, d'une part, c'est aussi une mise à la rue différée pour ceux qui sont envoyés en centre de rétention, parce que comme ils sont 10 000, autant dire que les procédures administratives vont être extrêmement rapides, vont être des procédures de masse, et que dans ce cas, en fait, les juges administratifs vont libérer les gens. Mais bon, ils vont les libérer, qui à Lille, mais qui à Brest, qui à Marseille, qui à Nice et qui à n'importe où. Les gens ne seront plus à Calais. Bon, ils vont y revenir, mais ils vont mettre le temps. Et en attendant, en tout cas, ils seront vraiment à la rue. Et puis les gens qui vont aller en CAO, de toute façon, ils auront le choix entre présenter une demande d'asile en France qui ne sera pas acceptée.
Il y a des travaux.
On dirait que Marteau Piqueur, je ne me rends pas compte dans quelle mesure ça passe à l'antenne, mais
ça va pas trop passer, non.
Ouais, voilà. Donc les gens qui vont aller en CAO risquent eux aussi de se retrouver à la rue à un moment ou à un autre, déboutés du droit d'asile, ou alors qu'eux ils diront non mais en fait nous on veut pas demander l'asile en France, parce qu'en réalité il y a des tonnes de gens qui veulent pas demander l'asile en France. Alors il y en a qui vont retourner à Calais parce qu'en vrai ce qu'ils veulent c'est aller en Angleterre. Il y en a qui vont être dublinés, hein, comme on dit, c'est-à-dire que suite aux accords de Dublin, ils vont être renvoyés dans le premier pays d'Europe où ils ont laissé leurs empreintes. Bon, le chemin pour l'Angleterre est plus long, mais ils vont le reprendre, hein, d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça c'est une des choses qui vont se passer. Et puis une des choses qui se passe déjà, d'ores et déjà, c'est que puisque cette annonce de destruction du bidonville est là, elle est répétée, elle est énormément mise en avant, les gens qui sont là-bas, ils veulent passer coûte que coûte avant la destruction du bidonville. Alors voilà, ils prennent de plus en plus de risques, et puis samedi soir, il y en a un qui est mort sur une voie ferrée près de la rocade qui mène au port d'une zone industrielle. Comme il n'y a pratiquement pas de circulation de camions pendant les week-ends, il n'y a normalement pas de tentative de passage, sauf quand on cherche absolument toutes les occasions possibles à cause de l'urgence. C'était le 13e migrant qui est mort à la frontière depuis le début de l'année. Alors, je vais dire très rapidement, hein, mais le 10 février, le corps d'un exilé afghan disparu depuis plusieurs jours a été retrouvé dans le port. Le 2 mars, un exilé soudanais a été retrouvé mort sous sa tente dans le bidonville. Le 31 mars, un exilé afghan est mort sur l'autoroute, renversé par un camion qui ne s'est pas arrêté. Parce que vous allez voir, il y en a, dans ma liste, il y en a plusieurs qui sont renversés par des camions. Il n'y a pas un seul camion qui s'est arrêté. Ce qui veut quand même dire, vous imaginez que le chauffeur, il est dans son camion, il percute quelqu'un et il se barre, quoi. Le 1er avril, des bénévoles britanniques ont annoncé la mort d'un exilé qui vivait dans le campement de Grande-Synthe. Il avait réussi à passer la frontière sur les essieux d'un camion, mais ce camion a eu un accident en arrivant en Angleterre. Le 9 mai, un exilé pakistanais est mort sur la rocade près du port, renversé par une voiture. Le 29 mai, un exilé afghan est mort sur l'autoroute, renversé par un camion. Le 4 juillet, un exilé est mort sur la rocade. Dans la nuit du 11 au 12 juillet, une fille qui s'appelait Samrawit est morte, renversée par un camion qui ne s'est pas arrêté sur la rocade. J'ai dit que je faisais vite. Le 21 juillet, le corps d'un exilé a été retrouvé au bord de l'autoroute. Le 26 juillet, un exilé est mort d'un coup de couteau dans le bidonville, parce que aussi les gens, à force de bouillir dans la marmite, ils sont nerveux. Le 27 juillet, un exilé est mort sur la rocade portuaire, heurté par un véhicule dont le conducteur ou la conductrice ne s'est pas arrêté. Le 23 août, un exilé est mort dans une bagarre près des lieux de passage. Et le 16 septembre, un enfant de 14 ans est mort sur la rocade, renversé par un véhicule qui ne s'est pas arrêté.
Et ça, sans compter le nombre de personnes battues par la police quotidiennement, de gens qui essayent de passer et qui sont arrêtés et remis au bidonville d'État.
Alors, je vais quand même finir avec ça, juste pour dire que cette fois-ci, mais en réalité, exactement comme au moment de l'évacuation de la moitié sud du bidonville, le gouvernement promet une expulsion humanitaire, des examens de tous les individuels de tous les dossiers, de s'occuper des 1000 mineurs isolés, sans doute à peu près 1000 mineurs isolés qui sont là-bas, et donc de leur accès aux droits pour les mineurs isolés, hein, ça veut dire hébergement, scolarisation, tout ça. Bien sûr, tout ça risque de se passer, en tout cas d'après Bernard Cazeneuve, entre le 15 et le 30 octobre, autant dire qu'ils ont carrément du taf s'ils veulent d'ici là examiner la situation des 9000 adultes et des 1000 enfants et s'occuper sérieusement d'eux, autant dire qu'ils sont pas crédibles une seconde, mais qu'un certain nombre d'associations ont décidé de les croire. Alors on sait pas exactement pourquoi, mais le Secours catholique nous dit qu'ils sont contents aussi parce que les ministres ont dit qu'ils allaient dubliner personne, qu'ils allaient renvoyer personne, mais que alors bon, du coup le Secours catholique les croit. Alors allez savoir pourquoi, hein. Et croient aussi qu'ils vont réellement regarder les dossiers, et donc ils disent que ils espèrent que cette fois-ci le démantèlement de la zone nord, qui risque d'être encore plus compliqué de la zone sud, ne sera pas perturbé par des militants no-border comme ça avait été le cas en mars pour le démantèlement de la zone sud. Autant dire que c'est des gens qui ont choisi leur camp.
Maintenant, on va écouter un témoignage sur l'islamophobie d'un texte trouvé sur Internet et lu par deux personnes qui ne sont pas les autrices.
Mais avec ces histoires de voile, de burkini, de domination de la femme, les Arabes devraient être plus discrets. On n'avait pas fait ça avec les autres vagues d'immigration, avec des gens comme toi, quoi.
Moi ?
Oui, les Espagnols, les Portugais, les Italiens. Enfin, tu es quoi, toi ?
Moi ?
Oui, toi.
Bah, moi, je suis française.
Oui, mais en vrai.
En vrai ?
Oui.
Bougnoule, pur jus.
Ben, non, c'est pas ce que je voulais dire.
Mais si.
Non, vraiment, je parlais pas de ça. J'ai rien contre les immigrés, j'ai juste un problème avec le machisme, la burqa, le burkini, le voile.
Je portais le voile, tu sais.
Hein ?
Et oui, j'ai porté le voile.
Et tu étais forcée ? C'est pour ça que tu as fini par l'enlever ? Pourquoi l'avoir porté ?
Ça ne te concerne pas. C'est juste que je l'ai porté parce que j'en avais envie et que je l'ai retiré parce que j'en avais envie.
Oui, mais tu étais la même personne.
Pardon ?
Tu t'habillais comme aujourd'hui ? T'avais fait des études ?
J'allais même à la mer.
Mais tu portais des vêtements normaux ?
Je n'ai pas pu aller plus loin dans la discussion. Je ne suis ni psychologue ni assistante sociale. Si les gens sont ignorants et racistes à l'ère de YouTube et Ryanair, je n'y peux rien. Voilée ou pas, je reste une femme, issue de l'immigration, fille d'ouvrier, issue de banlieue, qu'on discrimine pour un tas de raisons et dans un tas de contextes. C'est injuste, mais ça ne m'empêche pas de vivre, heureusement. L'actualité ne me choque pas. Quand j'étais voilée, j'ai été physiquement agressée par des inconnus dans la rue, j'ai reçu des crachats de la part d'inconnus dans la rue, l'improviseur de mon lycée mesurait à la règle la taille du bandeau de cheveux et non voile que j'avais sur la tête avant de me laisser entrer dans l'établissement, avant la loi de 2004. J'ai été interdite de cours pendant plus d'un mois l'année du bac, tout en ayant l'obligation de pointer quotidiennement au lycée, parce que je portais un bandeau pour cheveux clairs et non un voile, et que je ne pouvais donc pas être envoyée pour non-respect du règlement intérieur. Mais ils considéraient ça comme un substitut de signe religieux. Ça, c'était après l'adoption de la loi de 2004. Avec certains professeurs, du collège jusqu'à la fac, j'avais moins de la moyenne toute l'année. Et quand les copies étaient cachetées, j'avais plus de 16 sur 20. Mes candidatures ont très souvent été retenues pour des concours, appels à projets, business ou scolaire. Mais lors de l'étape de l'oral, de la rencontre physique, on me faisait comprendre que ce n'était finalement pas possible. À chaque actualité terroriste dans le monde, j'avais droit à des réflexions dans les transports en commun, à des passagers qui refusaient de retirer leur sac du dernier siège disponible et qui avaient le soutien de tous les passagers du wagon en mode « on est chez nous ». Un policier, là pour une ex-ministre avec qui j'intervenais lors d'un colloque, m'avait bousculé alors que je tentais de regagner la loge des invités parce que, je cite, « j'avais pas une tête à faire des interventions ». Et la liste est longue. Aujourd'hui, sans voile, je fais face à d'autres injustices. Elles sont teintées d'exotisme, elles sont moins frontales, plus insidieuses. J'en suis venue à regretter l'époque où je pouvais gagner du temps en lisant instantanément la haine sur le visage du facho. Bref, je ne suis plus voilée, mais je suis toujours une bougnoule. Mais comme disait un grand philosophe, qui peut me stopper?
Mais avec ces histoires de voile, de burkini, de domination de la femme, les Arabes...
Ah, on dirait que ça passait en boucle. Alors, je vais encore parler, mais je vais quand même être un petit peu plus rapide parce que aussi on en a déjà parlé la semaine dernière. Mais on se rappelle que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est elle aussi menacée d'expulsion d'un jour à l'autre. Alors voilà, il y avait un certain nombre d'indices qui disaient que ça aurait pu intervenir lundi dernier, d'autres indices qui disaient que sans doute pas. En tout cas, c'est pas intervenu lundi dernier, ça peut être n'importe quand maintenant. Il y a un appel qui circule beaucoup sur Internet qui s'appelle Défendre la ZAD. Qu'on va pas du tout lire ici parce qu'en réalité il est très très long, mais qui raconte plein de choses très passionnantes sur les raisons de défendre la ZAD. Bon, ça, je vais revenir très rapidement sur le fait que d'une part il y a cette histoire d'aéroport qui est quand même vraiment un truc un peu scandaleux au moment de la COP21, au moment de tout ça, cette idée de privilégier, de développer le déplacement en avion qui est le déplacement le plus ultra polluant du monde, que à la quantité de pollution au kilomètre et par personne, l'avion c'est je crois 1000 fois la voiture, un truc comme ça. Donc voilà, autant dire que développer l'avion c'est quand même vraiment un choix complètement scandaleux de la part d'un gouvernement qui se prétend être leader, la COP21, blabla, etc. D'autre part, les gens qui ont voulu s'opposer à la construction de cet aéroport vivent sur la ZAD depuis... alors bon, pour certains, ils y vivent depuis toujours, mais en tout cas, les gens qui sont venus pour s'opposer, ils y sont depuis 2008 et ils y ont construit des choses un petit peu dingues qui ressemblent vraiment à une possibilité de vivre et de s'organiser d'une manière anticapitaliste, autogérée. Alors avec plein de problèmes, hein, plein d'embrouilles à des moments, plein de tout ça. Mais en tout cas, ils y arrivent. Ce truc marche. Et tout ça en plus dans un contexte de lutte, et que nous qui sommes pas, nous qui vivons pas, c'est extrêmement précieux pour nous que ces choses existent et puissent exister. Bref, si réellement le gouvernement socialiste ose attaquer la ZAD, ce qui est pas encore complètement sûr, hein, mais si réellement ils osent le faire, il faut qu'on défende la ZAD par tous les moyens possibles et imaginables. Alors bien sûr, pour les plus disponibles d'entre nous, le mieux c'est de sauter dans un moyen de transport et de filer là-bas. Il y aura des choses à faire directement sur la ZAD, c'est-à-dire globalement des barricades et à faire et à tenir. Il y aura des choses à faire aux alentours de la ZAD, qui seront aussi bien des choses de défendre vraiment la ZAD que des choses de s'occuper de l'intendance, de faire en sorte que ça soit possible. Il y aura des choses à faire à Nantes aussi, c'est aussi prévu, parce que assez logiquement, les flics qui seront là pour ça, qui seront certainement extrêmement nombreux, seront logés à Nantes. Alors par exemple, une des propositions qui est d'ores et déjà complètement publique, c'est de faire en sorte qu'ils puissent jamais dormir dans les hôtels où ils seront logés, en faisant du boucan tout le temps. En dessous des hôtels et en particulier la nuit. Et puis pour les gens qui vont pas bouger, et ben ça vaut le coup d'imaginer d'ores et déjà des actions à mener là où on sera, et ça peut être des actions, ça peut être des manifs, des rassemblements, ça peut aussi être d'attaquer les gens qui attaquent la ZAD, et donc en particulier le Parti Socialiste ou Vinci, l'entreprise Vinci, qui sont eux qui construiront l'aéroport.
Donc, comme c'est une multinationale, il manque pas d'exemples de choses Vinci un peu partout, dans n'importe quel endroit.
Alors voilà, bien sûr, à Radio Canu, on n'encourage que des actions totalement légales et non violentes. Mais après, les gens font ce qu'ils veulent.
Et le collectif des habitantes et riverains rennes de Saint-Julien-Molin-Molette se mobilise contre la volonté du carrier Delmonico Dorel d'exploiter pendant 30 ans supplémentaires le sous-sol du village. Donc ce village souffre depuis 30 ans des nuisances générées par ce carrier qui est installé justement juste au-dessus. Et l'autorisation actuelle d'exploitation prend fin en 2020. Et en 2005, le parc naturel régional du Pilat avait obtenu du carrier l'engagement de remise en état du site pour cette date. Mais en novembre 2014, alors que le conseil municipal s'applique à la conversion du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme, Le Carrier fait connaître en mairie son intention de déposer une nouvelle demande d'exploitation pour 30 ans, avec un programme d'extraction passant de 150 000 tonnes par an à 500 000 tonnes par an.
Alors il faut dire que d'ores et déjà dans la rue principale de Saint-Julien-Molette, il y a un camion qui passe toutes les 3 minutes. Ça veut dire qu'un énorme camion qui traîne de la poussière derrière lui, si la production triple, ça voudra dire un camion toutes les minutes.
Et d'ailleurs, en 2016, au printemps, il y a eu un coup de théâtre, puisque le préfet de la Loire s'est enjoint la maire de mettre donc le plan d'occupation des sols, toujours en vigueur, en conformité avec le projet d'intérêt général décrété et porté par l'État, donc le préfet, pour répondre aux exigences du Carrier. Donc en vrai, c'est l'État là qui pousse au fait que ça se passe, alors que les habitants et habitantes de cette région du Pilat n'ont plutôt pas trop envie de cette carrière. Le 30 juin, le conseil municipal vote à une très forte majorité contre l'ingérence du préfet. Le même jour, une délibération du parc naturel régional du Pilat établit, après la réunion de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, fait état des incohérences et inexactitudes du dossier remis aux participantes dans la précipitation 3 jours avant la réunion. La réunion s'est soldée par un vote favorable, l'État ayant dû faire valoir la prépondérance de sa voix face aux résultats. 4 pour, 4 contre et 6 abstentions. L'État veut donc passer en force et entend imposer à la commune le classement en zone à carrière de 7 hectares de terrain, plus près encore du centre du village. Quoi dire d'autre, c'est qu'une enquête publique s'ouvre ce mercredi 27 septembre. Et c'était pour ça que c'était l'occasion là d'en parler sur Canu. Et donc c'est à suivre les informations qui aura lieu, puisqu'il y a un collectif des habitants et des riverains de Saint-Julien-Molin-Molette qui s'est monté. À croire le collectif, on dirait qu'il n'y a que des hommes, puisque c'est pas du tout féminisé.
Et le mercredi 27 septembre, c'est aujourd'hui. Du coup, l'enquêteur public est arrivé aujourd'hui et a été accueilli par un grand pique-nique d'intérêt général devant la place de la mairie.
Pour finir ce Canu Info, un petit agenda que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site rebellion.info. Donc, le 1er octobre, il y a une manif anti-nucléaire de Flamanville. Donc, petit programme de ce week-end. Lors de la discussion du vendredi soir sur les perspectives de lutte dans le Cotentin, ils ont prévu d'inviter des anciens de la lutte contre la construction de la centrale de Flamanville. Ils raconteront les histoires d'occupation du site et des actions effectuées fin des années 70. Ils parleront aussi de manière dont le projet de centrale nucléaire a été imposé dans un nord Cotentin très rural à l'époque. Ensuite, il y a la manif. Ensuite, le dimanche, après le brunch midi, il y aura un jumelage entre Bure et les déboulonneurs de l'Ouest. Donc, s'en suivra une discussion avec les buriens-buriennes qui donneront des nouvelles fraîches de la lutte. Voilà, ça c'est pour ce week-end pas trop dans la région lyonnaise. Et sinon, pour Lyon, demain, il y a une rencontre et discussion sur l'absurdité du travail social avec des membres du collectif professionnel de l'urgence sociale. Donc c'est ce jeudi 29 septembre à 19h au 44 rue Burdeau, Lyon 1er. Sinon aussi à la même heure, ce jeudi 29 septembre, il y a un truc qui s'appelle Pierraton 2017 Assemblée citoyenne. Ça sera à 19h30 par contre à la MJC d'Errancy. Donc c'est dans le 3e arrondissement à la Guillotière, 249 rue Vendôme. Et vendredi, c'est la réouverture de l'atelier avec un apéro-concert d'un groupe antidaté pour donc l'ouverture d'une nouvelle saison culturelle et militante de l'atelier des canulars au 91 rue Montesquieu, Lyon 7e arrondissement.
Ouais, il est 19h59 et 30 secondes.
Et nous laissons la place à
Idées Noires, l'émission de la CGA. Et le temps qui s'installe, on va vous laisser avec quelques secondes, quelques minutes de bande continue.
Et on se dit à la semaine prochaine.
Ciao.
Merci d'avoir écouté.